Un passage ce matin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, les versets 27 à 42. C'est Jésus qui parle. Je vous dis à vous qui m'écoutez, au moins on sait à qui il parle, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou, comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Notre Dieu, tu as les paroles de vie et de lumière pour être un guide sur notre route. Béni sois-tu pour cette parole qui nous accompagne et nous éclaire. Voilà, aujourd'hui, nous ouvrons cette page de l'Évangile que nous connaissons tous, chrétiens ou pas d'ailleurs, puisqu'à travers les siècles, un certain nombre d'expressions bibliques sont rentrées, comme ça, sont passées dans le langage courant. Et c'est le cas, par exemple, de cette image de la paille et de la poutre dans l'œil de notre voisin. C'est dans notre texte donc de ce dimanche, c'est le texte qui est prêché un petit peu dans toutes les églises. Et alors, on va prendre le temps de cheminer dans ces quelques versets en écoutant, à travers ce qui sera dit, quels sont les mots, les idées, les paroles qui résonnent dans nos cœurs pour nous faire grandir et avancer sur notre chemin. Alors cette histoire de paille et de poutre, on va y revenir. Mais déjà dans ce chapitre, Jésus, vous l'avez entendu, parle en général de l'amour de l'ennemi, des ennemis. Et pour le contexte, enfin, on peut imaginer, ce que nous pouvons en tout cas deviner facilement, c'est que ce qui fait la trame de son discours, c'est en fait une opposition, une critique du commentaire que faisaient les pharisiens de ces deux préceptes de la loi, d'un côté œil pour œil, dent pour dent, et de l'autre côté tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commentaire des pharisiens, en l'appliquant à la vie privée, cette loi du talion qui était en principe œil pour œil, dent pour dent, cette loi du talion, elle était écrite et faite pour les juges en Israël, et certainement pas pour chacun en particulier, Et bien sûr, en réduisant le mot prochain à celui qui me ressemble, aux juifs, à celui qui est bon croyant comme moi, évidemment, ça élimine tous les autres, et du coup, la conséquence, c'est donc, tu peux haïr celui qui n'est pas ton prochain. Vous voyez, comme ils avaient détourné, en fait, la loi. Celui qui n'est pas ton prochain, c'est en fait, ton ennemi, l'étranger, d'une manière générale. Et à ces travestissements de la loi, Jésus alors oppose l'immensité et la gratuité de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu tel que d'ailleurs l'homme, ceux qui ont entouré Jésus, ont pu le contempler en lui, ont pu le voir vivre. Et en tout cas, voilà pour ce contexte. On comprend que Jésus a envie de rectifier les choses alors qu'il sent que la loi est mise à mal. Si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'y a-t-il là d'extraordinaire dans votre amour ? C'est juste un amour ordinaire. Jésus, lui, veut parler d'un amour différent, plus profond, qui doit devenir celui qui désire participer à l'élaboration, à la construction, à l'approfondissement, à l'élargissement, à l'épanouissement du royaume de Dieu. Ce qui vient changer, c'est ça. L'amour humain cherche un objet duquel il puisse, au besoin, obtenir un retour. Il a toujours, en principe, il y a toujours quelque chose d'intéressé dans cet amour humain. L'amour nouveau que Jésus inaugure, lui, sera complètement gratuit et désintéressé. Et c'est justement pourquoi il peut embrasser même l'objet le plus opposé à sa nature, jusqu'à l'ennemi, jusqu'à l'étranger. Évidemment, puisqu'on n'en attend rien, et que c'est gratuit et désintéressé. Ça le rend possible. Mais dans l'amour humain, avec l'égoïsme caché dans cette conduite de calcul, si vous prêtez de qui vous espérez recevoir, en quoi cela fait-il avancer le royaume ? En quoi cela change-t-il les choses ? Jésus demande à ses disciples d'être différents, d'aimer de manière différente. Et ça n'est donc qu'un habile calcul si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir. C'est l'égoïsme, en fait, qui s'accorde systématiquement, instinctivement, avec la loi du talion. Je te donne, tu me donnes, œil pour œil, dent pour dent. Et précisément, ce que Jésus cherche à mettre d'abord en lumière pour pouvoir mieux, justement, le combattre, en approfondissant ce que devrait être, donc, l'amour pour ceux qui l'écoutent. S'il met sous nos yeux le calcul égoïste de l'amour humain, c'est juste que Jésus veut lui donner une autre dimension. Il veut l'élever, le rendre plus authentique pour ses disciples, l'approfondir, peut-être le transcender pour ses disciples. Et il nous donne en quelques mots le principe nouveau d'un amour entièrement gratuit, alors qu'il se détache là en 3D sur toute la noirceur de ce tableau d'égoïsme et de calcul, cet amour humain. Et si les ingrats et les méchants sont l'objet de l'amour divin, eh bien c'est que cet amour est justement gratuit et compatissant. Jésus cherche à nous faire comprendre que Dieu voit dans le méchant le malheureux. Dieu voit dans le méchant le malheureux, alors que notre dureté naturelle cherche toujours dans le méchant, cherche toujours le méchant dans le malheureux. On est toujours à l'affût de ce qui ne va pas, à l'affût de cette petite paille chez lui, avec nos grosses poutres. Mais Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ainsi donc, les disciples de Jésus ne sont pas seulement appelés à pratiquer eux-mêmes le bien, ils ont pour mission de le partager, de le répandre, et même de le faire triompher sur la terre. C'est en cela qu'ils sont, que nous sommes, lumière du monde et celle de la terre, que nous sommes appelés à donner sa saveur au monde. Si nous ne sommes pas différents, si nous ne sommes pas sel, nous ne pouvons changer quoi que ce soit dans notre monde et dans le royaume qui s'élargit. Or, cette action salutaire, nous dit Jésus, on ne peut la mener, on ne peut l'exercer que par l'amour. Amour qui se manifeste alors soit par l'abstention, ne juge pas, ne condamne pas, soit par l'action positive, pardonner, donner. Et les deux fonctionnent, mais avant tout, donc, on l'entend dans ce texte, l'amour s'abstient de juger. Ne jugez pas. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné, pardonnez et vous serez pardonné, donnez et il vous sera donné, on vous donnera dans votre sein une mesure pleine, bonne, pressée, remuée, débordante, car de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera en retour. Alors attention, ici peut-être il faut comprendre qu'il ne s'agit pas tant du pardon des offenses personnelles, qui serait là comprise comme une manifestation de l'amour de Dieu. Mais il s'agit plutôt du jugement tolérant, miséricordieux, sur les péchés d'autrui en général. C'est-à-dire de toujours voir l'autre avec un a priori favorable. Ne pas commencer par chercher la paille chez l'autre, mais toujours le voir comme « ok ». Et quand il parle, il est probable que Jésus donc a en tête le jugement dur et hautain que les scribes et les pharisiens s'arrogeaient le droit de pratiquer, d'exercer en Israël, un peu sur tout le peuple qui venait les consulter. Jugement souvent très dur et qui était plus nuisible qu'utile. On le voit dans la manière dont ils considèrent, par exemple, les collecteurs d'impôts, les handicapés, les prostituées, que sais-je encore, les personnes adultères. Ils sont très, très durs et en général, oui, ils tirent vers le bas, enfin, ils écrasent comme ça. Et en fait, quand on entend tout ça, c'est tous ceux que Jésus, de la part de Dieu, est venu visiter. On peut penser par exemple à Zachée, le collecteur d'impôts. Jésus s'invite chez lui. Et on voit qu'il vient fréquenter tous ceux qui étaient rejetés justement par cette bonne pensée des pharisiens. Il est venu pour leur parler, pour les bénir, pour les guérir, pour les relever. Il est venu pour eux. Je ne suis pas venu dans le monde pour le juger, mais pour le sauver, dira plus tard Jésus, de la part de Dieu. D'ailleurs, ne jugez pas et ne condamnez pas, les deux mots ne sont pas tout à fait synonymes, même si ils vont le devenir, par le sens que ça prend dans ce texte-là. Juger, krinéine, c'est en général se poser en appréciateur de la valeur morale d'autrui, mais bon, comme là où règne cette disposition, le jugement s'exerce généralement dans un esprit peu bienveillant. On peut imaginer que voilà, ça prend ce sens défavorable ici dans ce texte. Et il est même renforcé par le verbe qui suit, donc condamner, c'est encore pire. Entendons condamner impitoyablement, sans cœur, celui qui... Voilà, qui aurait mérité peut-être quelque indulgence, mais sans chercher jamais ces indulgences, sans avoir l'empressement de chercher ce qui pourrait sauver l'autre, mais toujours ce qui l'écrase. Alors voilà, apolluen, en fait, absoudre dans notre texte, pardonner, ça ne se rapporte pas tant au pardon comme une offense personnelle, là aussi, mais plutôt comme l'empressement de l'amour à trouver le prochain innocent plutôt que coupable, à l'excuser plutôt qu'à le condamner. Alors il peut y avoir un jugement inspiré par l'amour, c'est vrai, on le trouve dans la Bible, et on dira que c'est le vrai jugement, difficile à exploiter, mais c'est un jugement, celui-là, qui fait grandir. Mais ce que Jésus veut bannir dans la société de ses disciples, c'est l'esprit de jugement, c'est-à-dire le jugement pour le malin plaisir de juger. Et apparemment, nous sommes très prompts à ça. Donc Jésus leur dit de voir de l'autre avec toujours un œil nouveau, un œil neuf, un œil indulgent. Et c'est peut-être d'ici d'ailleurs qu'a été tirée la béatitude qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Et bien sûr, à la disposition de pardonner s'ajoute celle de donner. On l'entend déjà dans pardonner, celle de donner, c'est-à-dire de rendre service à tous, même aux plus pécheurs d'entre nous. Donnez et il vous sera donné. On vous donnera dans votre sein une pleine mesure débordante. Quelqu'un a dit « Donnez à Dieu plein votre main, il vous donnera plein la sienne ». Eh bien, c'est un peu ça. Sauf que là, on entend une dimension de rétribution, peut-être. On attend une récompense, ce que le texte veut dénoncer. Et en même temps, ça n'a pas besoin, vous l'avez compris, tout ça, de parler d'un autre monde. Quand on parle de récompense qui viendrait après, le texte n'impose absolument pas ça. Dans le « on » du texte, on entend moins Dieu que les autres hommes et femmes que nous sommes appelés à côtoyer sur notre route. Je vous relis. « Donnez et il vous sera donné. » Ça ne nous dit pas que Dieu va nous donner quoi que ce soit. « Donnez et il vous sera donné. » On vous donnera dans votre sein une pleine mesure débordante. Ah, d'ailleurs, cette expression « dans votre sein » qu'on entend parfois de manière récurrente dans la Bible se rapporte, vous savez, à la forme du vêtement oriental, comme ça, qui formait une espèce de poche, comme ça, jusqu'à la ceinture, et dans laquelle on pouvait, voilà, porter quelque chose à cet endroit-là. C'était un large pli, comme ça, en forme de poche. Alors vient maintenant notre fameuse parole sur la paille et la poutre, et je terminerai là-dessus, j'espère pour vous. Alors bien entendu, l'image est très exagérée, hein, la paille et la poutre. Jésus fait ça de temps en temps, il utilise des images impossibles, ce qu'on appelle les hyperboles. Il va nous faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille, ou je ne sais pas, il y en a plein des comme ça. Voilà, où il propose à ses auditeurs de se couper la main, de s'arracher un œil plutôt que de pécher. Il parle par exemple aussi comme si une injure était l'équivalent d'un meurtre. Il dit que certaines personnes devraient être jetées à la mer avec une grosse meule attachée autour du cou. Bon, l'hyperbole, c'est un certain type de langage qui est utilisé en général pour faire réagir, pour attirer l'attention et pour faire réagir. Alors réagissons peut-être en imaginant la paille dans l'œil du voisin et la poutre dans notre œil. C'est bien sûr le contraste entre la taille et l'épaisseur de ces deux éléments que Jésus met en avant. Le petit brin de paille dans l'œil de l'autre, ben, il faut pour le repérer, on le sait, s'arrêter, regarder, observer, surveiller, examiner, dévisager celui qu'il a dans son œil. Je repère les petits défauts de mon prochain en l'examinant attentivement, en le surveillant, en l'observant pour ça. Peut-être, mais c'est sans doute plutôt parce que j'ai tendance à repérer ce qui ne va pas chez l'autre de manière si jouissive, si facile. Hein, c'est tellement facile d'aller voir ce qui ne va pas chez les autres. Et du coup, par contre, je ne suis pas du tout un très bon observateur sur ce qui se passe chez moi, sur mes défauts ou mes erreurs, qui sont plus ils sont gros, ces défauts, et moins je les calcule, moins je suis lucide sur moi-même. Et c'est assez normal parce que on peut difficilement être son propre juge. On peut même dire que plus nos défaillances sont évidentes et moins nous pouvons les voir. Mais voilà, nous arrivons seulement, très curieusement, d'ailleurs c'est le mot, curieusement, à repérer les défauts et les petites erreurs chez les autres. Et que sort-il alors de cette sévérité qui est la nôtre vis-à-vis de ceux avec lesquels nous vivons, nous travaillons, nous militons, si on les observe comme ça, avec cet élan-là, bien évidemment des tensions, des incompréhensions, des conflits. Ils sont d'autant plus durables et graves que bien souvent, en cas de conflit, chacun de ceux qui en sont affectés a tendance à épaissir sa propre poutre. Hein, c'est-à-dire que son esprit de jugement est pleinement actif, est pleinement vivant, la poutre grossit, et on voit toujours davantage, avec beaucoup d'importance, la paille dans l'œil du voisin, qui est d'ailleurs devenu un adversaire, au passage. Et ce phénomène existe à tous les niveaux, entre les membres ou les générations, par exemple, d'une même famille, dans les entreprises, les activités professionnelles ou associatives, au plus haut degré de la politique, à l'intérieur de chaque pays, mais même aussi entre pays, entre les États. Dans la société actuelle, par exemple, imaginez la tension que ça a dû provoquer à Noël de se retrouver comme ça, tous en famille, avec les vax et les anti-vax. Vous voyez les jugements qui ont dû s'échanger dans ces moments-là, les uns avec les autres, et ça n'a pas dû être très facile pour tout le monde. Alors tout cela, pensez-vous, sans doute n'a rien d'extraordinaire. Hein, Jésus nous invite aujourd'hui simplement à appliquer cette formule populaire qui nous pousse juste à balayer devant notre porte. Un jour, on m'avait posé cette question, combien de temps il faudrait pour aller nettoyer un pays comme la France, par exemple. Vous avez une idée de ça? De nettoyer complètement les rues d'un pays comme la France, de la taille de la France? Ben, il faudrait 5 minutes. En fait, si chacun nettoie devant chez lui, il faut exactement 5 minutes. Et c'est un peu cette société-là que Jésus aspire et vers laquelle il nous propulse. Bref, la poutre que Jésus a portée en marchant vers Golgotha, celle-là n'est plus dans notre œil. Alors il faut surtout retenir sa façon d'annoncer que, dans sa grâce pardonnante, si on le laisse faire, Dieu enlève et la paille et la poutre qui obscurcissent notre regard. D'ailleurs, qui obscurcit ça, à la fois notre regard sur les autres, mais aussi notre regard sur nous-mêmes. Donc on pourrait se dire qu'on pourrait le laisser faire. Et voilà, cette poutre, elle a été déjà enlevée, Jésus l'a déjà portée, puisqu'il l'a portée jusqu'à la croix. Et peut-être que c'est ce que fait cette croix, c'est qu'elle nous rend justement lucides sur nous-mêmes et bienveillants, bien regardants sur les autres. C'est là le message de Jésus pour ses disciples et pour nous, d'ailleurs, disciples ou non, qui l'écoutons ce matin.